chaste. Nos cerveaux récitent à l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, libre et combat.
Mitchell.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève quand on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux de beau pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux Débat du jour qui commence avec au programme deux auteurs. Quelqu'un que nous recevons pour la première fois, il s'agit de Gwenaël Aubry. Et puis quelqu'un qui devient un habitué de cette émission, il s'agit de Nicolas Martin. Deux univers assez dystopiques en fait, puisque le premier, c'est celui de Gwenaël Aubry, avec un roman qui s'appelle « Zone basse vie », qui est paru chez Gallimard, et qui revient sur la période du confinement pendant le Covid, période que nous avons très très vite oubliée. Mais ce roman est intéressant parce qu'il nous ramène à ces moments particuliers où des tas de choses se sont passées, en fait, en termes de pouvoir, en termes de novlangue, en termes d'emprise sur les individus, de jeu sur la peur, de séparation et d'isolement au-delà du confinement. Voilà, donc on va retrouver Gwenaël Aubry pour parler de ce très très bon livre. Et puis ensuite, ce sera Nicolas Martin. Martin qui a publié ces jours-ci son premier roman de science-fiction d'anticipation, roman qui s'appelle Fragile, qui est paru au Diable Vauvert. Et ça fait du bien de lire un tel livre, parce que quand on le prend, on ne le lâche pas. C'est un vrai bonheur de lecture et en même temps, c'est un livre qui s'engage et qui dit beaucoup de choses. Alors voilà pour le programme de cette émission. On retrouve tout de suite Gwenaël Aubry pour Zone basse vie. C'est un roman et c'est paru chez Gallimard. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéaux et Débats, avec le grand plaisir de retrouver aujourd'hui Gwenaël Aubry pour un roman qui est paru chez Gallimard et qui s'intitule Zone basse vie. Et moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé dans cette rentrée à plusieurs titres. D'abord parce qu'il parle d'un sujet qui a été complètement occulté, qui est la période que nous avons tous traversée, qui est la période du Covid. Et il semblerait qu'il y ait une forme de déni collectif par rapport à ce que nous avons vécu. Et ça, ça m'a intéressée. Ensuite, parce que c'est un livre qui dit « nous » et qui ne dit pas « je ». Et dans ces périodes de rentrée littéraire, et bien vous êtes une exception, Gwenaël Aubry. Et tout ce qui est le « nous » collectif m'intéressait aussi. Et en plus, dans le contenu du livre, se pose la question du pouvoir, de son utilisation. Donc ça ne pouvait qu'aller avec Radio Liberté. Alors merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Et on va commencer, avant de parler du livre, par parler d'une présence dans le livre qui est celle de Georges Perec. Georges Perec qui est cité en exergue. Bon, il y a la forme du livre avec les habitants d'un immeuble. Il y a des espèces de petits cailloux blancs sous forme d'objets qui sont présents dans le livre un petit peu partout, chez les uns et chez les autres. Il est question de disparition dans un alphabet. Enfin, il y a beaucoup comme ça de petits éléments. Et c'est un bonheur de lecture, de découvrir, de les traquer un peu.
Merci. Oui, Perec est là. Il m'accompagne depuis longtemps. Il était déjà présent en épigraphe de personnes. J'avais mis une citation de W ou un souvenir d'enfance. Et là, sa présence s'est imposée, mais comme celle d'un compagnon de jeu. Et il n'a pas été première, en fait. Ce qui a été premier pour ce livre-là, dont l'élaboration a été, même pas l'élaboration, en fait, la gestation. J'ai beaucoup, beaucoup tâtonné. Pour plein de raisons, dont on parlera peut-être, mais bon, il se trouve que ce qui là a été vraiment moteur, a vraiment tout déclenché, c'est ce titre, ces trois mots, zone basique, voilà, que j'ai lu un jour en passant devant un chantier en Normandie, des algécos étaient dressés, il y avait ce panneau, et sans que je sache pourquoi, ces trois mots, simplement leur juxtaposition, leur sonorité, m'ont paru condenser toute mon expérience de cette période-là. Si bien que ces trois mots ont fait titre, ont appelé la forme d'un immeuble, ont appelé cette espèce de jeu de miroir avec un chantier qui se construit en même temps que le roman, et bien sûr, à son tour, la forme de l'immeuble a appelé Perec et a appelé la ville mode d'emploi. Elle l'a appelé d'autant, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai que, comme là, le réel a saisir et à diffracter en même temps, parce que vous l'avez dit, enfin, l'un des enjeux de ce roman, c'est dire « nous ». En fait, c'est faire corps de nouveau, c'est retrouver du commun, retrouver du collectif.
Après cette période de séparation.
Donc ce réel-là était de plomb, et de plomb. Si bien que pour le relancer, ce à quoi sert pour moi le roman, de façon générale, pour le relancer, j'avais vraiment besoin, et plus que jamais, de jouer. Et c'est vrai que j'écris. Souvent avec des règles du jeu invisibles, donc avec des contraintes qui sont avant tout ludiques. Là, mes contraintes, évidemment, ne pouvaient pas être les mêmes que celles de Perec. L'immeuble de la ville mode d'emploi n'est pas confiné. On y trouve ce que Perec appelle des parties communes où l'on se croise. Dans mon immeuble, l'immeuble du 11 bis rue Vinclair, évidemment, on est confiné. À partir de là, les contraintes que j'avais sont finalement celles, les contraintes, disons, d'écriture, de construction, que j'avais, sont en fait véritablement celles que le réel nous a imposées et celles que le réel impose à mes personnages. Il s'agit avant tout de savoir comment, alors qu'ils sont séparés, atomisés, chacun dans cette cellule, cette petite cellule, un appartement, une chambre, comment ils peuvent de nouveau se lier. Donc là, l'une des règles du jeu, c'était par exemple trouver un principe de liaison entre les personnages qui soit différent de saison en saison, puisque le roman se construit au fil des trois saisons de confinement. Une autre règle du jeu, pour moi fondamentale, était de faire entrer le monde dans leur chambre, et donc de lier chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, à un autre pays ou à un autre continent. Une autre règle du jeu encore était d'aménager un glissement progressif de la narration objective à la narration à la première personne. En fait, j'avais besoin, en fait, qu'il ne puisse dire « je », mais huit là, mais les huit de la rue Vinclair, qu'il ne puisse dire « je », c'est-à-dire retrouver une intériorité, qu'une fois retrouvé le monde, le dehors, les autres, l'extérieur. Je me suis beaucoup étonnée pendant toute cette période d'entendre des écrivains, des artistes parler du confinement comme d'une occasion finalement bénie d'arpenter à loisir leur intériorité verrouillée. Voilà. Pour moi, il s'agissait à l'inverse d'ouvrir grand portes et fenêtres, de faire entrer le monde à l'intérieur de la rue Vinclair. Thank you.
Alors, ce qui est intéressant aussi, Gwenaëlle Aubry dans Zone Basse Vie, par rapport au personnage, ce roman paru chez Gallimard, on va quand même le rappeler, par rapport au personnage, c'est que vous avez pris comme personnage ces figures presque symboliques du Covid, c'est-à-dire l'étudiante, la personne âgée, la personne vulnérable qui est la femme enceinte, la petite fille qui se retrouve à ne plus pouvoir aller à l'école mais qui n'a pas d'ordinateur, et tous ces figures qu'on nous a présentées, vous en faites les personnages, et en même temps, c'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire que de ces images, vous faites des individus, oui, avec une histoire intime et une traversée temporelle, malgré tout, et une traversée de la peur, parce que c'est un élément très important du livre, c'est cette peur qu'on nous a plaquée comme une chape de plomb.
La peur, oui. La peur et la peur des autres, enfin, ce qui m'a, moi, terrifiée, c'était ça aussi, finalement. J'avais peur d'avoir peur. J'avais peur de me retrouver à changer de trottoir quand je croisais quelqu'un dans la rue. J'avais peur de... Je suis tombée malade, mais très vite, comme Kirsten dans le roman, enfin, dès le 14 mars, j'avais peur d'être devenue intouchable. J'avais l'impression d'être une sorcière, de porter en moi... une sorte de mal archaïque. Enfin, tout de suite, je me suis sentie écartelée, d'ailleurs, entre une sorte de oui, c'est ça, de passé archaïque, de mémoire collective.
Des grandes épidémies, voilà, de la peste.
La peste, ou même plus récemment, le sida. Et un futur dystopique. J'avais l'impression que le réel dupliquait, répétait, bégayait une mauvaise fiction que je n'arrivais pas à identifier. Donc la peur, oui, bien sûr, eux tous la portent, mais... Je les ai, d'une certaine façon, je les ai tous rencontrés, au sens où toute cette période, pendant toute cette période, j'ai accumulé, sans trop savoir qu'en faire, des matériaux, des photos, des histoires, des images, des récits venus du monde entier, et que tout ça était trop lourd pour moi, d'une certaine façon. Donc je l'ai diffracté sur eux tous. Eux tous, d'ailleurs, dont on n'a pas vraiment entendu la voix, finalement. Sinon, à travers des documentaires, mais...
On les a juste pointés du doigt.
On les a pointés du doigt, mais voilà, ces enfants qui, dans la cour de récré, tout à coup, se trouvaient à devoir jouer au milieu de cercles, ou à devoir jouer à chat sans pouvoir se toucher. Ils jouaient à chat ombre. Enfin, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à regarder des blogs d'école primaire de cette période-là, regarder les règles en vigueur dans les cours de récré. Bon, des vieillards dans les EHPAD, on en a entendu parler, bien sûr, mais les femmes enceintes, enfin, qu'est-ce que c'est qu'accoucher avec un masque? Qu'est-ce que c'est que porter la vie dans un monde mort?
De mort.
Ouais. Mettre au monde un enfant dans un monde qui n'a plus d'extérieur, finalement. Enfin, tout ça m'intéressait beaucoup, toute cette façon dont le rapport intérieur-extérieur a été complètement perturbé. C'est des questions sur lesquelles je travaille beaucoup, sur lesquelles j'écris, en fait, depuis toujours. Maintenant, effectivement, ce ne sont pas des échantillons sociologiques.
Pas du tout.
Tous ont un corps, d'abord, parce que c'est quand même d'abord nos corps qui ont été affectés dans cette affaire-là.
D'abord, même si on les a mis à distance.
Précisément parce qu'on les a mis à distance. Précisément parce qu'on les a mis à distance. C'est-à-dire que toutes nos façons de bouger, d'habiter l'espace, de saluer, enfin, on s'en souvient, d'ailleurs, ça a laissé des traces. On ne se serre presque plus la main. On a perdu des gestes, on a appris des mots, un lexique, un nouveau lexique a circulé, qu'on s'est finalement approprié. En revanche, on a perdu des gestes. Donc les corps ont été les premiers engagés. C'est aussi pour ça que c'est un roman qui s'est imposé. Les sciences humaines ont très tôt commencé à dresser l'inventaire de ce qui s'est joué de fondamental, à mon sens, à cette période. Mais
pas la fiction.
Mais pas la fiction. C'est ça, c'est très curieux. Je m'attendais en fait à un déferlement. Et bizarrement, quand le sujet est traité, alors d'abord, il est réduit, c'est-à-dire la focale est très étroite. La pandémie est réduite au confinement. Le confinement, alors que la pandémie, ça intègre plein d'autres choses, plein d'autres dimensions, à son tour, le confinement est réduit à la toile de fond d'histoires familiales ou amoureuses, voilà, la vieille psychologie névrotique. Mais curieusement, la dimension complètement inouïe de cet événement, sa dimension de crise totale, de crise mondiale, n'est pas prise en compte. Donc j'ai essayé de rendre justice à cette démesure-là, au pan de pandémie, enfin, ça veut dire tous, c'est universel, c'est-à-dire, vous le disiez, on a tous été séparés. Le paradoxe, c'est qu'on a été collectivement séparés. À un moment, le monde comptait 4 milliards de confinés, c'est-à-dire 4 milliards de personnes isolées ensemble, et dont l'unique, finalement, rapport était de ne plus en avoir. Donc là, il y a un paradoxe qui est quand même, bon, pour le moins intriguant, et qui pose aussi un défi artistique, qui pose un défi, notamment en roman, c'est-à-dire comment, justement, mettre en histoire, au pluriel, puisque là, c'est un roman pluriel, comme les vies mode d'emploi de Pérec, d'ailleurs, comment mettre en histoire ce qui, à la fois, a été indubitablement un point de bascule dans la grande histoire, et en même temps s'est traduit pour beaucoup, du moins pour ceux qui ont de la chance d'être épargnés, par l'absence d'histoire et d'événements. Comment on fait pour mettre ça en récit? Donc effectivement, en allant voir sous les symboles, sous les... Voilà, effectivement, qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste chez ce vieux monsieur? Qu'est-ce qui se passe chez cette petite fille? Qu'est-ce qui se passe chez cette femme enceinte, cette étudiante? En allant, en faisant corps avec eux, en refaisant corps avec eux.
Monsieur, 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 mons
ça permet justement de retrouver cet espace individuel et intime, mais au sens, je vais dire, noble du terme, parce que vous évoquez, Gwenaëlle Aubry, ce nouveau lexique, et je crois qu'il est très très important, parce que moi, si je devais faire un rapprochement, je trouve que cette pandémie a eu un côté tour de Babel. On parlait un langage qui était à peu près commun, puis d'un seul coup, quelque chose est arrivé qui fait qu'on s'est tous trouvés séparés, à ne plus parler de la même façon, mais avec un langage qui nous a été imposé, qui était cette novlangue de barrières, de gestes barrières, de distance de sécurité, de guerre, tout ce vocabulaire que vous relevez si bien dans Zone Basse Vie, et qui interroge beaucoup parce que il nous a été imposé de manière assez violente, ça a fracassé nos existences. Et insidieusement, on continue de l'employer, oui, ce vocabulaire. Et ça moi, reste. C'est quelque chose qui me laisse assez perplexe.
Moi aussi, d'autant que si je suis écrivaine, c'est aussi parce que je crois en l'efficacité des langages. Je ne pense pas que les mots soient innocents. Enfin, c'est la citation de Klemperer que je mets dans la bouche de Claire Kouassi. Les mots sont comme de minuscules doses d'arsenic. Et c'est vrai que oui, on s'est mis à parler cette nouvelle langue, qui donc cette langue virale, hein, qui traverse le texte en italique. On n'avait d'ailleurs d'une certaine façon plus rien en commun. La seule chose qui traversait encore les frontières, bah, c'était cette langue-là, c'était ces mots-là, de clusters, de super spreaders, etc. Et en même temps, oui, les mots qu'on emploie ne sont pas innocents, et c'est vrai. Je ne peux pas croire que... Moi, je suis restée chez moi. Je veux dire, j'étais malade. En plus, je n'allais pas m'amuser à disséminer mon virus. Je suis restée chez moi. Je suis restée chez moi, mais là encore, j'avais peur aussi du monde qu'elle est configurée, ces injonctions. C'est-à-dire que quand j'entends bulle sociale, par exemple, ou distance sociale... ou souciez-vous des proches, eh bien j'entends méfiez-vous des lointains, méfiez-vous des autres. D'une certaine façon, vous voyez, ce roman, c'est aussi... Au tout début de la pandémie, j'ai écrit un petit tract de crise pour Gallimard qui s'appelait « Se souvenir des confins », qui se faisait vraiment l'écho de cette peur-là. Il s'agit aussi, à travers ce roman, de rappeler les confins contre le confinement. Je ne peux pas croire qu'après avoir appris pendant... des mois à considérer les autres, ceux qui sont un tout petit peu trop lointains, pas tout à fait assez proches, comme une menace, je ne peux pas croire que ça n'ait pas eu d'effet, y compris politique, et qu'on n'en ait pas d'une certaine façon payé le prix. Voilà. Donc le livre n'est pas un essai polémique, voyez, pour ou contre le confinement, il ne s'agit pas de ça. C'est arrivé, ça nous est arrivé, ça n'était jamais arrivé. Pas à cette échelle-là, en tout cas. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? J'essaye de comprendre ce qui nous est arrivé. J'essaye de comprendre ce qui, dans cette affaire-là, alors peut-être a été rendu nécessaire par tout simplement parce qu'il n'y avait plus de masques, parce que l'hôpital public est dans un très très mauvais état. Donc à un moment, on n'avait pas le choix, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui nous est réellement arrivé ? Et effectivement, comment redire-nous après ça ? Comment redire-nous après ça ? Comment reconstruire le monde dont on a été privé ? C'est aussi ça que cherche à faire le roman, reconstruire le monde, le remettre en chantier, très littéralement. Comment sortir de ces jeux atomisés qui finalement ont dicté l'unique forme littéraire qu'on ait vu apparaître à cette période-là, à savoir les journaux de confinement. Oui. Je pense que les journaux de confinement sont une forme qui, en fait, confine au carré, ne font qu'enfermer plus encore à l'intérieur de l'intimité, ne font qu'enfermer, enfermer et infirmer à l'intérieur d'un moi mutilé parce que coupé des autres.
Oui, et je pense à Kirsten, qui, bien sûr, est un personnage important du livre. Elle est étudiante et elle travaille justement sur qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir totalitaire. Et par rapport à notre peur, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour être en sécurité. Elle évoque le Léviathan de Hobbes, et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir aussi cette approche-là dans le livre, parce que ce sont des vraies questions.
Oui, alors en fait, Kirsten, effectivement, l'étudiante en philo du quatrième étage, qui est malade au tout début du livre, elle aussi, bon, il arrive à Kirsten ce qui m'est arrivé à moi à cette période-là. Il se trouve que voilà, je suis aussi philosophe, que je venais d'achever une archéologie de la puissance. J'ai beaucoup travaillé sur cette question de la puissance, sur la question du pouvoir. Alors, pas forcément le pouvoir totalitaire, mais le pouvoir absolu, c'est encore autre chose. Et donc, sur la question de la toute-puissance et sur ses effets politiques. Bon. Notamment, en effet, chez Hobbes, ou encore chez Carl Schmitt, Carl Schmitt qui définit, comme vous le savez, le pouvoir souverain par la décision de l'état d'exception. Tout à coup, donc ça n'est pas nouveau, ça fait un moment qu'on vit sous état d'urgence, mais quand même tout à coup, l'exception est devenue notre état, l'urgence est devenue notre ordinaire, et ces concepts abstraits sur lesquels j'avais travaillé
ont pris corps. Là,
non seulement ils étaient là, mais ils ont pris corps, ils ont pris mon corps, ils ont pris mon corps à nous tous, totalement incarné, puisque une fois plus, il nous dictait vraiment notre façon de marcher dans la rue, de saluer les autres, etc. Kirsten, qui est philosophe, mais aussi danseuse, fait cette expérience-là. Ça passe sous sa peau, ça passe dans sa chair. Mmh. Et il y a là quelque chose, à décrire, à raconter, à mettre en récit. Alors c'est vrai qu'elle regarde le frontispice du Léviathan de Hobbes, et que si on regarde de très près ce frontispice, on voit à son bord, tout au bord de l'image, prêt à en tomber, on voit des médecins de la peste avec leur long masque en forme de bec d'oiseau.
Et elle va découvrir qu'effectivement, il a connu la peste. Il était à la période de la peste.
Oui, mais comme tu sais dit. Oui, ce sont toujours des... Foucault a écrit des pages importantes dans Surveiller et punir sur le quadrillage de la peste, sur la façon dont les grandes pandémies sont l'occasion de l'exercice d'un pouvoir en quelque sorte capillaire. Qui passe, qui s'infiltre dans tous les aspects du quotidien. Donc, oui, on a fait cette expérience-là. Et là encore, ce qui m'intéresse, c'est qu'on l'a faite, cette expérience, quand je dis « on », de nouveau, c'est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que, par-delà la variation entre les différentes politiques sanitaires, tout le monde entier, a fait l'expérience du pouvoir sous sa forme la plus nue, c'est-à-dire de l'arbitraire du pouvoir. Que la décision ait été prise de confiner ou de ne pas confiner, ce qui d'ailleurs s'est traduit au Brésil et aux États-Unis, comme vous savez, par des millions de morts. Bon. Dans tous les cas, partout, tous ensemble, nous avons fait cette expérience-là.
Oui, et je pense à un point qui est évoqué également dans Zone Basse Vie, Gwenaëlle Aubry, paru chez Gallimard, et que nous avons tous traversé et qui nous a tous posé question, qui était la définition de qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Ce nouveau partage du réel, cet arrêté ontologique stupéfiant, et qui là encore n'a pas eu cours qu'en France, et où tout à coup se sont trouvés désignés comme inessentiels toutes les choses qui donnent sens à la vie, l'art, la culture, les loisirs improductifs, les supermarchés étaient essentiels, et les librairies inessentielles, mais aussi bien les universités, aussi bien les salles de spectacle. Bon, on se souvient de ça. On se souvient de ça ou pas, parce que comme vous l'avez dit, cette période fait l'objet d'une forme de refoulement, voire de déni massif. Quoique en même temps, les psychanalystes, les médecins, par exemple, en mesurent chaque jour les ravages chez leurs patients. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il est important d'en parler.
D'en reparler.
Oui. Je pense notamment aux Kirsten, à toutes les Kirsten, à toute cette génération-là, qui tout à coup, à l'âge où on doit pouvoir quitter enfin ses parents, vivre ses histoires d'amour, partir, voyager, se construire un avenir, se sont trouvés enfermés chez leurs parents, sans histoire, sans rencontre possible, sans futur, sans projet. Et chez qui ça a fait et ça continue de faire des ravages, et qui, je pense, enfin je le sais en fait parce que j'ai des enfants, se sentent aussi encore plus abandonnés par les adultes, parce que justement, d'une certaine façon, nous n'en prenons pas acte. Et l'art n'en prend pas acte.
Non.
Alors peut-être qu'on n'a pas, peut-être que certains hein, n'ont pas envie de retraverser ça, ce que je peux comprendre, mais c'est comme avec toute remarque, c'est-à-dire que pour en sortir, il faut le retraverser. Et par ailleurs, le retraverser sous une forme artistique, eh bien c'est justement y réinsuffler, enfin du moins c'est pour ça que j'écris, c'est pour réinjecter de la vie, c'est pour réinjecter de l'élan, du mouvement, des possibles dans le réel. La littérature ne peut pas changer le réel, on le saurait, mais elle peut le rejouer. Et rejouer le réel, c'est aussi le déjouer. Et c'est pour ça que là, je l'ai dit tout à l'heure, je parle beaucoup de jeu, mais parce que c'est vraiment très important, ça l'a toujours été pour moi, mais là plus que jamais, c'est pour ça que là, j'avais vraiment besoin de... Enfin, voyez, à la fois d'une large échelle narrative, d'une véritable narration, ça c'est assez nouveau pour moi, qui travaille plutôt à partir de... Voilà, avec la poésie, en infiltrant de la poésie dans le roman, etc. Là, je joue avec la poésie, je joue avec John Donne, mais j'avais quand même vraiment besoin de plein de moteurs narratifs. Parce que le roman est pour moi depuis toujours une façon de relancer le désir par-delà la sidération, de relancer le mouvement par-delà l'immobilité, de retrouver du temps par-delà les instants arrêtés, et finalement d'échapper aux puissances mortifères de la répétition. Et là, les puissances mortifères étaient ô combien présentes, échapper à l'éternel retour. Il y a aussi dans le roman ce personnage d'Emmanuel Mulin, qui, c'est un start-upper nietzschéen. Emmanuel, lui, est enchanté d'être enfin délivré du fardeau des autres et de vivre dans un monde aseptisé qui, de surcroît, est bon pour ses affaires. Mais Emmanuel, il s'enchante de l'éternel retour. Là, il fallait, et c'est une question, vous voyez, c'est aussi une question artistique, esthétique, et qui était très très amusante hein, à faire travailler à l'échelle du livre, qui était justement celle-ci. Comment on articule la répétition et la variation? Comment on articule cette espèce de d'éternel retour du même, ce sont les mêmes heures, les mêmes saisons qui se reproduisent, enfin... Bon, un jour sans fin, une sorte d'intérieur jour, en fait, sans cesse recommencer. Comment on articule ça avec la variation? Parce qu'en fait, il leur arrive des choses à tous.
Oui.
Et des vraies choses.
Oui, oui, oui.
Hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not that shit.
Et ça a un côté, chaque histoire a un petit côté poupée russe, parce qu'un petit élément va en entraîner un autre. La vie est tout le temps là. La vie, de toute façon, continue malgré tout, malgré le fait qu'on essaye justement de la figer. Et j'allais dire, ce qui va être important aussi, ça va être les fractions des corps. Parce que les corps vont reprendre leur droit d'exister. Et on le retrouve au travers de plusieurs des personnages. Ils vont revenir, ils vont être là, oui. Et ça va redonner du mouvement et de l'élan.
Oui, oui, c'est ça. Ce qui m'intéresse chez eux tous, c'est leur stratégie de survie, c'est leur stratégie vitale. C'est comment ils font pour sortir de la zone basée autrement que zombie. J'entends aussi ce mot de zombie dans zone basée. Je déteste les romanciers, les écrivains, les écrivaines qui laissent leurs personnages à terre. Alors j'en ai un là quand même qui non seulement est à terre mais va passer sous terre. Bon. Mais les autres non, les autres sont profondément vivants et ils le sont d'autant plus que quelque chose les menace. Je pense que la vie n'est jamais plus puissante que quand justement elle se relance par-delà ce qui la menace. Et eux ont cette puissance vitale. Et c'est vrai que pour certaines plutôt d'entre eux. Oui, ça passe par la rencontre amoureuse, ça passe par le désir, ça passe par l'érotisme, ça passe par ce rapport intense à l'autre qui est donné dans la relation érotique, qu'elle soit vécue sur un mode sur le mode d'une sorte de fantasme insulaire par Manon Mernissi, l'avocate du deuxième étage, ou à l'inverse par Kirsten, comme une sorte de
voyage,
de navigation, c'est ça, de navigation au long cours. Et c'est aussi chez elle une façon de résister à cette langue dont nous parlions tout à l'heure. Elles sont elles aussi agies par cette langue, si bien qu'elles réagissent contre elle. Si Manon Mernissi, l'avocate issue d'une grande famille marocaine patricienne, tombe amoureuse de l'un de ses clients qui est en préventive à Fleury-Mérogis, un ouvrier italien. Si elle tombe amoureuse de Fulvio, c'est aussi pour franchir la distance sociale, c'est aussi pour franchir les barrières sociales, c'est aussi en réaction contre ce lexique-là.
Oui, et aussi pour retrouver dans ce rapport fusionnel avec cet homme un sentiment de sécurité, montrer que l'autre peut aussi protéger, n'est pas qu'un danger. Et j'ai trouvé que pour ce personnage qui a vécu les années SIDA et qui l'évoque d'ailleurs, le fait de choisir la proximité corporelle, le fait de se relancer dans cette aventure était aussi très symbolique.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, elle s'abrite en Fulvio, finalement, oui, il s'abrite sans doute l'un l'autre, mais en tout cas, il y a cette espèce d'insularité à deux. Je suis en train de penser, en fait, je pense à Orwell, là. Je pense à la chambre amoureuse de 1984. Ou à nous de Zamiatine, qui d'ailleurs est inspiré Orwell. Dans ces livres-là, c'est finalement c'est la chambre des amants qui devient l'unique hacienda, l'unique refuge. Ça, c'était déjà un motif qui était présent dans mon dernier livre et dernier roman, La folie Elisa. Après, toute la question, ça c'était la question de la folie Elisa, c'est comment transformer cette formidable puissance érotique, cette formidable puissance qu'est l'érotique, en une puissance collective. Comment ouvrir la hacienda, comment ouvrir la chambre des amants à tous.
Alors, on n'en dira pas plus, Gwenaëlle Aubry, sur le devenir des différents personnages. Chacun va avoir son chemin. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment de lire Zone Basse Vie. Donc, Gwenaëlle Aubry, c'est paru chez Gallimard, parce qu'on évoquait le besoin de reparler de cette période, le besoin d'y revenir collectivement, par la fiction aussi, mais d'en discuter. Parce que c'est vrai qu'on est, même dans une période où, quand on en parle, on a tendance à minimiser. C'est devenu, on est presque tous des Bolsonaro, avec le côté grippette, quoi. Alors peut-être que ça a un côté ordalique aussi de se dire, ah ben, on est passé au travers, il y a besoin de ça, mais il est temps de passer à autre chose.
Merci.
Merci en tout cas, Gwenaëlle Aubry. Lisez Zone Basse Vie, c'est chez Gallimard. Merci beaucoup et puis j'espère au prochain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
There was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The wind blew up and about, up, down. Oh, blow, my bully boys, blow.
Soon may the wellman come, bring us sugar, tea, and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go.
We had not been 2 weeks from shore, went down on her right well bore. The captain called all cans and swore he'd take that whale in tow.
Soon may the wellman come, bring us sugar, tea, and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go.
Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the deck, harpooned and fought her, and she dived down below.
Soon may the wellman come, bring us sugar, tea, and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go.
No line was slacked, no whale was freed. The captain's mind was not agreed, for he belonged to the wellman's creed. She took that ship in tow.
Soon may the wellman come, bring us sugar, tea, and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go.
For 40 days or even more, the line went slack and tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go.
Soon may the wellman come, bring us sugar, tea, and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go.
As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. And the wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew, and all.
Soon may the wellerman come, bring us sugar, tea, and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go.
One time.
Soon may the wellerman come, bring us sugar, tea, and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go.
Voilà, c'était donc Gwenaëlle Aubry qui nous parlait de Zone Basse Vie, son dernier roman paru chez Gallimard, roman que je vous recommande vraiment parce qu'il est passionnant, parce qu'il est bien écrit et ça fait réfléchir. Le second livre dont nous allons parler ce soir, eh bien, c'est le premier roman de Nicolas Martin. Nicolas Martin qu'on a reçu à propos d'Alien, qu'on a reçu à propos de beaucoup de choses. Et qui là nous revient avec un roman, son premier roman de science-fiction qui est paru au Diable Vauvert, qui s'intitule Fragile, et qui moi m'a passionnée parce que déjà à la lecture il est très dense, très riche, et puis parce que il met en évidence ce que pourrait être un état totalitaire en France en termes de conséquences sur la vie des individus, sur leur reproduction, sur beaucoup de leurs droits fondamentaux. Alors on retrouve tout de suite Nicolas Martin, Fragile, au Diable Vauvert. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir de retrouver Nicolas Martin pour un livre, cette fois, qu'il écrit, lui. Alors, on n'est pas là pour parler d'Alien Romulus.
Non, autre on pourrait en parler, par ailleurs, mais on parlerait d'autre chose.
Voilà, enfin, on va parler d'une autre sorte de bébé, en fait, d'autre maternité.
Tout à fait.
Alors, premier livre de science-fiction qui s'intitule Fragile, qui est paru au Diable Vauvert, et c'était un plaisir de lecture. Moi, je te l'ai dit quand on a pris contact. lui, je ne l'ai pas lâché, donc c'est un critère quand même. Mais comment il est né, ce livre?
c'est un bébé maudit.
un bon bébé, quand même.
Un bon bébé, oui, tout à fait. Non, écoute, comment il est né? C'est une drôle d'histoire. Et puis, ça me fait très plaisir. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et pour Radio Libertaire. Et ce que tu me dis là, c'est quelque chose qui me fait très plaisir par ailleurs, parce que je n'arrête pas d'avoir des retours, là je suis beaucoup dehors en festival, etc., de gens qui me décrivent la même chose, c'est-à-dire qui me disent je l'ai pris, je l'ai pas lâché de la nuit. Là par exemple, j'étais à Bordeaux le week-end dernier, quelqu'un qui est venu me lâcher le samedi, qui est venu le dimanche, il m'a dit mais c'est un maléfice, j'ai lu la moitié jusqu'au bout de la nuit. Des gens qui me disent, d'habitude moi j'ai même des témoignages, des gens qui m'ont écrit en me disant j'ai pas lu un roman, j'ai pas terminé un roman depuis 20 ans et le tien je l'ai lu en 4 jours. Donc il se passe quelque chose autour du rythme, et ça c'est vraiment une vraie satisfaction, évidemment, parce que c'est un peu dans ce sens-là que je l'avais imaginé. Et pour répondre à ta question plus directement, comment il est né? Il est né d'une drôle de manière, parce que j'aime bien vadrouiller, j'aime bien vadrouiller tout seul, partir dans des coins perdus, et j'étais sur les îles Féroé il y a 3 ans. Donc au petit bout de rocher au milieu entre l'Islande et l'Écosse. Et je venais de terminer une nouvelle que je devais terminer pour mon ancien éditeur. Et à l'issue de cette nouvelle, mon éditrice de l'époque, Laetitia Rondeau, me dit « Mais ce serait bien que tu commences à penser à un format un peu plus long. » Et je lui dis « Bah oui, bien sûr, bah, moi aussi ça me trotte dans la tête, mais encore faudrait-il que j'ai une idée. » Encore, bah, je veux dire, un roman, ça va être une nouvelle, c'est pas un truc.
Il faut tenir la distance,
il faut avoir envie d'y passer du temps, et puis il faut trouver quelque chose de suffisamment solide sur ses appuis pour se dire qu'on va y passer des mois à développer, etc. Et donc, bon, bah, à ce moment-là, j'avais vraiment aucune idée, donc je raccroche de cette conversation, je vais me balader entre les moutons, la pluie, les averses, les champs verts, enfin bref, dans ce paysage magnifique que sont les îles Féroé. Et puis je rentre un peu épuisé de mes randonnées, je me couche et je me réveille à 4h30 du matin, fébrile, j'ouvre mon ordinateur et j'écris mon rêve. Et mon rêve, c'est la structure, c'est la base de Fragile, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose avec les bébés, il y a de moins en moins de naissances, et pour remédier à cette absence de naissance, des gens vont faire quelque chose qui va donner ça. Donc j'en dis pas plus, puisque c'est évidemment la clé du roman. Et ce qui est marrant, en revanche, c'est que... j'ai lu ça cet été, là, l'été dernier, j'ai lu enfin un bouquin qui était dans ma palle depuis des années, qui est Écriture de Stephen King, et où il raconte, c'est un peu une biographie, en même temps c'est sa méthode d'écriture. Et King décrit très bien comment, à un moment donné, dans son style, dans son mode d'écriture à lui, les personnages prennent le contrôle. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les personnages prennent le contrôle, mais en tout cas que les personnages prennent l'ascendant d'une certaine manière, ou en tout cas qu'à un moment donné, il y a effectivement dans le processus d'écriture quelque chose qui t'échappe. Et du coup, j'avais cette idée, qui était l'idée finalement d'un thriller de science-fiction assez classique, et petit à petit, je me suis laissé emporter par mes personnages, par Tiffen, le premier chef, qui est mon héroïne.
C'est un très beau personnage.
Ah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et puis surtout par le contexte. Et je crois que je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en outre cette histoire de science-fiction que je vais en écrire en disant qu'est-ce qu'ils font aux gamins, ce qui est la fin d'ailleurs quand on arrive dans la troisième partie, en fait je me rends compte que c'est pas tellement ça que j'ai envie de résoudre. Ce que j'ai envie de résoudre, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette société. Et ce que je raconte beaucoup dans Fragile, en fait, c'est mon angoisse personnelle de se dire...
De l'apparition de cet univers.
On peut le dire très clairement, se dire le jour où l'extrême droite sera au pouvoir, et si elle n'est pas déjà, ce qui peut se discuter, en tout cas très 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 proche, en tout cas elle a les clés en main, il reste plus qu'à les mettre dans la serrure, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je crois que c'est vraiment une angoisse, moi, qui me travaille de plus en plus. Et surtout, et c'était il y a 3 ans quand je commençais à l'écrire, tu vois. Et on n'était pas au moment des législatives et dans la séquence politique dans laquelle on est maintenant. Et je veux dire, le jour où ils sont de facto, effectivement, au pouvoir, c'est-à-dire Le Pen élu avec l'Assemblée nationale majoritaire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui vont avoir le courage de prendre les armes, il y a des gens qui vont, et j'en ferai certainement partie, descendre dans la rue, on va se faire taper dessus, on va se faire emprisonner, on le sait, puisqu'il n'y aura plus aucun contrôle démocratique là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? La vie continue. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette vie qui continue quand les fachos sont au pouvoir? Et c'est vraiment, je pense, l'une des locomotives, si ce n'est la locomotive principale
du
roman.
Et ce qui est intéressant, c'est que donc, les nouveaux patriotes sont au pouvoir, mais c'est déjà la génération d'après. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ceux qui ont lutté au premier chef parce qu'ils c'est parce qu'effectivement les fachos sont arrivés au pouvoir, mais ceux d'après qui sont beaucoup plus résignés et qui, voire même malgré leur révolte, sont accommodants. C'est le cas de Tiphaine et de son mari, qui sont des gens plutôt engagés politiquement, mais qui vont se dire « Ah bah oui, mais je peux peut-être essayer de servir quand même quand son mec va se retrouver donc dans un ministère de fachos.
» Ben, si tu me permets, j'ai le passage exact que tu décris, page 194-195, c'est un paragraphe que je peux vous lire, parce que je trouve que c'est un paragraphe qui raconte très bien tout ça. Tiphaine écrit à la première personne à ce moment-là « Nous ne sommes pas de la génération qui a connu la dernière insurrection. Cette génération dont nous rencontrions les ultimes représentants déjà âgés dans le secret de soirées clandestines planquées dans d'exigus locaux condamnés et depuis longtemps oubliés dans les sous-sols de nos universités partiellement privatisées. Ils nous transmettaient leurs récits de barricades, de grèves illimitées, de résistance et de grands soirs. Cette génération qui a cru que, face au coup de force institutionnel, il était encore possible de faire entendre la voix du peuple, que l'heure de la révolution était sur le point d'advenir. Cette génération dont il ne subsiste aujourd'hui plus aucun témoin et dont les luttes se sont fracassées sur la répression brutale et meurtrière d'un pouvoir totalitaire à qui tous les gouvernements précédents avaient préparé le terrain. Nous sommes d'une autre génération, tardive, timorée, apeurée, celle qui est née bien après la reconquête autoritaire, l'échine courbée, celle pour qui il est devenu dangereux de contrevenir, celle pour qui il est devenu honteux de penser, celle pour qui l'abdication n'est pas un choix, mais une fatalité. Nous étions pourtant convaincus que nous serions plus solides, plus intelligents, plus évolués que le système. Quelle blague.
C'est tout à fait ça. Ouais.
Voilà, et vraiment, mais ça, je pense que ça fait partie de mon angoisse et j'espère de l'angoisse de beaucoup de citoyennes et de citoyens dans ce pays. Et surtout, ce que je décris en toile de fond, parce que c'est une toile de fond qui va évoluer au fur et à mesure du
roman.
Bien
sûr, il y a une histoire.
Voilà, il y a une histoire, mais c'est une toile de fond. Et la toile de fond est importante à plusieurs égards. Et ce que dit cette toile de fond aussi, c'est que les néo-patriotes, l'extrême droite est arrivée au pouvoir par le vote. Et de Tiphaine et Gauthier, qui sont tous les deux des gens plutôt de gauche et qui se disent effectivement, nous, comme on est des CSP+, et qu'on a fait des études de droit, on va essayer d'intégrer les ministères pour Gauthier, la protection des migrants pour Tiphaine, pour essayer de préparer le retour de la démocratie. Mais ils disent bien, on leur a donné les clés de la baraque complètement. C'est-à-dire que ce que je montre, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est de se dire, c'est facile d'imaginer les fascistes qui fassent un coup d'État avec les militaires, et d'un seul coup, on n'a pas le choix. Là, c'est, ce qui est en train de nous arriver est beaucoup plus insidieux, et c'est ce que je raconte dans le roman.
Oui, et jusqu'où peut-on aller trop loin ? C'est toute la question de qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ?
Et c'est
le cas de Gauthier.
Et de Tiphaine aussi, hein, parce que Tiphaine, elle est assez lâche dans une première partie de l'ouvrage.
Oui.
C'est un roman qui parle de ce que j'appelle, ce qu'on connaît en science comme étant le problème de la grenouille dans la casserole.
Oui, on le chauffe progressivement.
Voilà, c'est la grenouille dans la casserole. C'est pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est de se dire si on met une casserole d'eau à ébullition et qu'on jette une grenouille dedans, elle va s'ébouillanter, elle va sauter, elle va sauver sa vie. Si on la met dans une casserole d'eau froide et qu'on monte le feu petit à petit, elle va mourir. Mmh. Et c'est vraiment ce que j'essaie de raconter, c'est de se dire à force de progrès, de victoire culturelle de l'extrême droite, on a fini par être anesthésié. Et aujourd'hui, au moment où ils sont à deux doigts de conquérir le pouvoir et qu'on ne voit pas bien comment ça va se passer autrement, personne ne réagit. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Voilà.
Ce contexte-là, et puis il y a un contexte purement scientifique qui est une baisse importante de la fécondité, avec le fait que ne viennent au monde que peu d'enfants, et quand ils viennent au monde, ils ont pour un grand nombre d'entre eux un syndrome de X fragile, qui est une pathologie qu'on connaît en moindre mesure, mais qui là devient extrêmement importante.
C'est ça, oui, c'est une pathologie réelle. Hein. Il y a 12 000 familles qui sont concernées en France. C'est une maladie qui est peu connue, mais qui est bien réelle et qui crée des retards cognitifs, certaines modifications physiques, aussi physiologiques aussi. Et donc le point de départ, l'idée de départ, c'est de se dire dans une société où donc non seulement dont la survie est menacée puisqu'il y a de moins en moins d'enfants, que je raconte aussi qu'il y a de moins en moins de garçons à cause de la délétion du gène Y et qu'on crée des générations d'enfants handicapés. On sait bien que les personnes en situation de handicap et les pouvoirs autoritaires, ça fait pas bon ménage. Le pouvoir autoritaire met en place un programme de géno-embryologie, c'est-à-dire de modification génétique des embryons pour recréer une génération d'enfants sains et donc finalement repeupler la France, la nation et le monde. Et donc Tiphaine, mon héroïne, est embringuée là-dedans. Et le livre commence littéralement comme ça, en disant « Félicitations, madame, c'est un garçon ». Elle dit « Eh merde !» Et elle se pose la question de se dire « Comment j'en suis arrivée d'une femme voulant résister, voulant préparer le retour de la démocratie et virer les fachos à une mère pondeuse pour un État nationaliste et néofasciste ?»
Mais en parallèle du message politique qui est important, il y a aussi toute une réflexion sur ce que c'est que la maternité. Et moi, ça m'a particulièrement touchée. Il faut préciser que, bien sûr, l'avortement est interdit et même extrêmement sévèrement puni. Mais au travers de l'histoire de Tiphaine, qui a une première fille qui est atteinte du syndrome de X fragile, mais qui est vraiment un enfant d'amour, et cette deuxième enfant qui va naître, qui est un garçon, effectivement, dans le cadre de ce programme de renatalisation du pays.
De réarmement démographique.
Voilà. Cher Canon, bonjour. Il y a toute cette réflexion sur la maternité, et j'ai trouvé ça extrêmement juste et extrêmement sensible.
C'est une question qu'on me pose souvent et en fait j'ai des réponses certainement assez décevantes parce que assez simples. J'ai deux niveaux de réponse là-dessus. Le premier, c'est celui qui est tout simple, ça s'appelle faire littérature. C'est-à-dire que j'ai grandi avec deux demi-sœurs plus âgées que moi, que j'ai vu tomber enceinte, dont j'ai vu élever des enfants en bas âge. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Par ailleurs, j'ai des amis qui ont eu leurs enfants. Donc j'ai été témoin d'un certain nombre d'histoires qui sont donc ce sentiment de véracité qui me touche beaucoup parce que c'est vrai que je suis un auteur homme. Il vient ni plus ni moins de la collection fiction, de récits et de témoignages, et puis même de choses auxquelles j'ai été présente. Il y a une scène un peu dure et qui touche, je sais, beaucoup les lectrices, d'un moment où Tiphaine vient d'avoir sa petite fille qu'on lui a enlevée tout de suite à la naissance parce qu'elle était handicapée, et elle se retrouve abandonnée dans un hôpital public, évidemment en déshérence, encore plus en déshérence dans mon roman qu'il ne l'est aujourd'hui, et elle veut absolument voir sa fille, et comme elle est encore sous une péridurale, elle tombe de son lit, elle rampe par terre en pleurant, en lui disant « Rendez-moi mon enfant ». Cette histoire, c'est l'histoire de ma sœur aînée. Je l'ai vue, on est arrivé à l'hôpital quand elle était dans cet état-là. Donc c'est encore une fois du vécu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que c'est un roman qui présente un différent visage féminin, mais principalement des personnages féminins. À part Gauthier, il y a peu de personnages masculins. Et différents personnages féminins qui résistent toutes plus ou moins à leur manière, mais qui sont aussi parfois des antagonistes. Et en discutant autour de ce roman, c'est vrai que je me suis rendu compte que souvent dans mes fictions, dans mes nouvelles, dans mes films, j'ai plus facilement des personnages féminins principaux que des personnages masculins. Et c'est une question à laquelle j'avais jamais totalement trouvé de réponse, et à laquelle je crois avoir une réponse aujourd'hui, parce que c'est vrai que je dépeins souvent des personnages de femmes qui sont victimes mais résistantes. Et je crois qu'en tant que j'ai beau être un homme blanc, cis, bourgeois, je suis un homme homosexuel, et je crois que j'ai connu dans ma chair ce que c'est que l'oppression systémique, simplement. Et donc je sais ce que c'est que d'être oppressé par un système dans lequel on n'a pas de place. Moi, je suis né en 76, découvrir son homosexualité à la fin des années 80, début des années 90, c'est pas rigolo. Voilà, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Je sais ce que c'est que d'avoir la trouille dans la rue, par exemple. Je pense que c'est simplement quelque chose de l'ordre de l'empathie et quelque chose d'assez naturel chez moi de m'identifier plus facilement à des personnages féminins qu'à des personnages masculins. Mais j'essaie de me soigner et j'essaie de créer des personnages masculins maintenant qui ne sont pas tous des salauds ou des lâche.
Oui, mais c'est vrai que Gauthier est un peu une silhouette, d'une certaine manière.
Alors, pas tout à fait, parce qu'il prend un peu d'épaisseur, on ne peut pas trop le dire.
Oui, non, on ne peut pas le dire. Mais il y a ce personnage d'Elisa, qui est un beau personnage aussi, de femme qui résiste. Il y a ce personnage, cette femme migrante, qui est aussi un beau personnage,
Aïssatou.
Oui. Oui. Donc oui, il y a différents pieds au tabouret, quand même.
Tout à fait, oui. Et sans rien révéler, je sais aussi un dans les femmes antagonistes, je pense à Isabelle principalement, mais aussi à Bénédicte, on se rend compte que les situations sont parfois plus compliquées qu'elles ne paraissent au premier abord.
Tout à fait. Alors on va parler un petit peu de la forme aussi, si tu veux bien, parce que moi j'ai beaucoup aimé la partie du journal de Tiphaine. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant dans la forme, parce qu'elle va donc d'abord dicter son journal
à l'intelligence artificielle qui s'appelle Alix, qui est une femme.
Et puis donc on va y avoir tous les détails, les chuchotements, etc. Et puis après, elle va se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure solution au niveau sécuritaire. Et donc, elle va se mettre à écrire. Et donc, on a l'écriture du journal avec les ratures. Ouais, ouais. Et j'ai adoré ça.
Bah, littérature, vous l'avez. Comme je disais, c'est Freud, je sais plus si c'est Freud ou Lacan qui a fait ce premier jeu de mots un peu douteux. C'est intéressant. Enfin, en fait, oui, effectivement, on va rentrer dans le carnet écrit de Tiphaine, puisqu'en fait, elle va se rendre compte à un moment donné qu'elle doit témoigner de ce qui est en train de lui arriver, et que l'écrit est le dernier endroit qui ne peut pas être surveillé dans cette société-là. Où plus personne n'écrit
à la main. Personne n'y pense.
Voilà, personne n'y pense et personne n'écrit à la main. Et les ratures sont venues assez vite. Parce que il y a deux choses. La première, c'est que le type de travail pendant très longtemps de Fragile, ça a été mon fils. Et en fait, dans toute cette partie-là, Tiphaine n'arrive pas à écrire ses mots. Elle n'arrive pas à dire c'est mon fils. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une sorte de refus de maternité de Nolan, alors qu'elle devrait, et elle n'arrête pas de se dire mais est-ce que c'est moi qui suis folle, d'autant qu'elle a eu des épisodes dépressifs auparavant, se dire mais pourquoi je n'arrive pas à aimer cet enfant qui est si parfait et pourquoi je n'arrive pas à considérer que c'est mon fils. Donc elle n'arrive pas à l'écrire, donc je raye. Et donc je me dis c'est intéressant en fait de voir et de lire la façon, ce qu'elle s'autorise à formuler, ce qu'elle ne s'autorise pas à formuler. Et donc je joue avec ça, et puis plus ça va, plus je commence à jouer avec la typographie. C'est-à-dire qu'au début il y a des ratures, et puis ensuite il y a des pages déchirées, et puis ensuite il y a des moments où elle n'arrive plus à écrire, où il n'y a plus de mots. Enfin, cette inspiration-là, elle vient d'un livre qui est essentiel pour moi, qui s'appelle La Maison des Feuilles de Mark Zadanievski, dont on a déjà certainement parlé, et qui est un livre qui n'arrête pas de contaminer la forme par le fond et réciproquement. Et je trouve que c'est intéressant de jouer sur ces retours à la ligne, sur ces espacements, sur parfois la disparition ou la surabondance des mots, parfois avec la taille de la, de, de la police, parfois avec le changement même de police en fonction des changements de source. Et je trouve que tout ça, c'est en fait une forme de ce que j'appelle de surponctuation. C'est-à-dire que ça permet une immersion renforcée, encore une fois, quand vous lisez les ratures de Tiphaine, vous avez accès à des choses que normalement, auxquelles on n'a normalement jamais accès, c'est-à-dire à son inconscient, mine de rien. Et puis même quand sa plume se tarit, quand elle n'arrive plus à écrire rien du tout, et ben d'un seul coup les pages se vident. Enfin voilà. Et donc ça fait partie de cette volonté très très immersive du récit par ces modifications typographiques. Quoi.
Sorti depuis le grand labour, j'attendais que les cris s'espacent et cessent enfin. Entre mourir de peur ou bien mourir de faim, j'ai pris tout mon courage et rampé vers le jour. Tu sais, j'ai survécu dans un endroit bizarre, au fond d'une ambulance à moitié calcinée. Vivant parmi les morts et comme halluciné, au coin de ce que fut notre gare Saint-Lazare, je respire un grand coup et voilà que revient le soleil espéré et que cesse la bruine. Je trouve ce papier qui volait dans les ruines et je lis cette lettre pour te dire tout va bien. Tout va bien ici, tout va bien. On sent là des rien que la vie revient. Tout va bien, mais oui, tout va bien. Et le quotidien le dit, le maintient. Tout va bien, amour pour ton chien. Pour les Parisiens, pour moi et les tiens. Tout va bien, crois-le, tout va bien. Bonjour, tout va bien. Je t'aime, tout va bien. Dans les rues, ton ombre dans la mienne. Les vainqueurs distribuaient la soupe à l'opéra. J'ai la paix dans le bol, tendu par un para. Là où nous goûtions les tempêtes wagnériennes, on avait déblayé boulevard des Capucines vers l'Olympia en ruine. J'ai vu quelques putains. Signe, je crois, lorsque le vieil instinct, narguant les convenances, remonte des racines. J'ai fait un grand détour pour le paru royal, contempler le charnier où grouillent encore les rats. C'est là où fut, dit-on, abattu Jean Ferrat, et le vent apportait des musiques martiales. Les vainqueurs défilaient, commentés par Zitrone. Moi, je ne disais rien, les yeux sur la télé. Ta mère se lamentait, ses opalines fêlées, malgré l'ordre et la paix, la faisait rire jaune. Allez, mon petit Jean, votre quartier est triste et rempli de cadavres en décomposition. Restez donc à dîner, il y a une émission avec Mireille Mathieu. Je l'aime bien comme artiste, mais puisque vous partez, prenez garde aux patrouilles, ils ont parqué les rouges au palais des congrès, dans le palais des glaces. Et au palais des sports, vos chers juifs ont la trouille. Pour revenir chez nous, comment passer la Seine? Barbelé sur les ponts, barbelé sur les quais. Près d'un cratère, j'ai cru revoir le Mastroquet, où nous nous retrouvions en des heures moins malsaines. Ce bistrot déglingué, c'était tout notre empire. Le futur y avait un visage précis. Que nous étions, et aveugles aussi, qui nous imaginions pouvoir prévoir le pire. Adieu notre jeunesse, voilà le temps qui vient, du pavillon des œillères et de la pestilence, le temps des ovations et celui des silences, que l'on ne rompt que pour se redire tout va bien.
bien, mais tout va bien. Et le quotidien le dit, le maintient. Tout va bien, amour, pour ton chien, pour les Parisiens, pour moi et les tiens. Tout va bien, crois-le, tout va bien. Je t'aime, tout va bien. Adieu, tout va bien. Vivace mon amour, on essaiera de l'être. Tu le seras aussi, comme cette vie qui va, comme les brins d'herbe cueillis dans les gravats, que je glisse pour toi dans le pli de ma lèvre.
Alors cet enfant, mon fils, que je n'arrive pas à dire, qui se prénomme Nolan, qui est un garçon parfaitement sain, tellement sain qu'il en devient très particulier. Et c'est intéressant de voir aussi l'évolution de la relation de Tiffen avec cet enfant. On ne va pas dévoiler, bien sûr, le cœur du livre, mais c'est ce jeu entre les deux qui, moi aussi, m'a fasciné.
On peut dire assez rapidement que Tiffen va se rendre compte, voilà, qu'il est atypique, qu'elle va se rendre compte très tôt, très vite, qu'il est très en avance, qu'il fait des progrès cognitifs. Ça commence très tôt, mais on est dans les 20 premières pages. Quand elle accouche de lui, il a à peine 3 semaines, d'un seul coup elle le voit suivre un oiseau du regard, alors qu'on sait notoirement que les nouveau-nés sont très très myopes et n'ont pas de vision profonde. Et donc elle va se rendre compte et elle va commencer à le suspecter, même de cacher ses progrès cognitifs, et donc de mentir à ses parents. Et donc cet enfant ennemi dans son foyer, ça, je me suis inspiré d'un livre remarquable là-dessus, qui a d'ailleurs été adapté dans un film tout aussi remarquable, qui est We Need to Talk About Kevin, de Lynn Ramsey, de Lionel Shriver, mis en scène par Lynn Ramsey avec Tilda Swinton et Ezra Miller. Et c'est la seule raison pour laquelle elle n'est pas dans l'épigraphe, contrairement à mes autres sources, c'est parce que Lionel Shriver a tenu des propos transphobes tout à fait condamnables, et que donc du coup même si j'admire tout à fait son travail littéraire, j'avais pas envie de mettre la personne en épigraphe. Tout ça pour dire que oui, il y a ce lien cette vision de l'enfant démoniaque, et qui me permet plus généralement d'interroger, d'ailleurs l'épigraphe par lequel j'ai remplacé Lynn Ramsey, c'est celui de Marguerite Duras, qui est aussi beaucoup Duras qui dit, c'est cette citation dans son, où elle dit, voilà, pourquoi est-ce qu'une mère devrait être mère à partir du moment où l'enfant naît, peut-être qu'en même temps que la naissance de l'enfant, il y a la naissance d'une mère et que c'est pas automatique. Donc voilà, oui, c'est toutes ces choses-là. C'est pas pour ça que je te conseille parfois. J'ai une amie qui m'a demandé, qui est enceinte, je lui ai dit, écoute, attends un peu. Pas tout de suite. But not now. Tu attends qu'il ait 3 ans. Dans 3 ans, tu le liras, tu fais une petite... Non, là, tout de suite, c'est pas une bonne idée. C'est le seul public auquel je les conseille. Sinon, pour tous les autres, ça marche.
Il y a un beau lien de maternité avec Madeleine, qui est un beau personnage.
Bah oui,
aussi.
Et puis qui est l'un de mes personnages favoris.
Bah oui, moi j'aime beaucoup.
On aime beaucoup Madeleine. Et il y a plein de choses aussi là que je peux vous raconter. J'ai été contacté par l'association des familles fragiles, de X fragiles, enfants fragiles, quand ils ont appris l'existence du roman. Et la présidente, après avoir acheté le bouquin, elle m'a réécrit 2 jours après, elle l'a lu dans le week-end, et elle était, la présidente et la vice-présidente étaient toutes les deux très touchées et très émues, parce qu'elles s'y retrouvaient, alors en étant consciente qu'il y avait une licence artistique et poétique, bien sûr, mais elle disait que c'était vraiment, qu'elle était très très heureuse de ce roman, qui représentait bien, tout le désastre, parce que la naissance de Madeleine n'est pas facile du tout, mais au fur et à mesure...
Les années sont difficiles aussi.
Il y a des années qui sont difficiles, mais se crée un lien qui va être essentiel et crucial dans le parcours de Tiffen. Ouais.
Alors, on va laisser les auditeurs découvrir ce roman. Ça s'appelle Fragile, c'est de Nicolas Martin, c'est Au Diable Vauvert. Mais alors tes projets, t'en es où? Parce que t'arrêtes pas.
Plein. Alors,
comme à chaque fois, on se dit ça.
Le prochain, ce qui est très important pour moi, c'est du 17 au 20 octobre, avec mon camarade Simon Rio, dont nous avions parlé d'Alien et d'Axénographie.
Bien sûr.
Nous lançons un nouveau festival de cinéma de l'imaginaire à Tours, qui s'appelle Mauvais Tour. Donc c'est du jeudi 17 au dimanche 20 octobre, avec un très très beau jury, avec une très très belle programmation. dans le jury, je peux le dire, puisque ça a été rendu public, on a l'autrice Chloé Delhomme.
Ah bah, c'est bien.
Voilà, le réalisateur Juste Philippot, ouais. Qui avait fait La Nuée et Acide. Samuel Baudin, qui est aussi réalisateur, qui avait fait le film Marianne, Cobweb, et qui est Tourangeau par ailleurs. Et l'actrice Lisa Niarco, qui est l'actrice principale du film Vermine.
D'accord.
De Sébastien Vanichet, qui viendra le samedi par ailleurs faire une masterclass. Donc on est très content de ça. Ça c'est le premier projet. Bon, ensuite il y a les Utopiales dont je suis devenu co-directeur ouais. artistique. Ça c'est la première semaine de novembre, avec là aussi un tableau de programmation qu'on vient d'affiner, de terminer, qui est très appétissant. Et puis la suite, eh bien, il y a le long métrage qui est toujours en cours de pré-production, en cours de casting, qui s'appelle Nous sommes toujours là, qui est un long métrage fantastique d'épouvante. Donc on est en casting, on s'avance. Et puis j'ai commencé à travailler sur le prochain roman, qui sera très différent, mais avec aussi quelques expérimentations formelles. Voilà, là on était plus dans la veine Margaret Atwood. Là je vais me rapprocher d'un autre maître, bah, j'en parlais tout à l'heure, qui est Stephen King. Donc on sera plus dans du drame fantastique familial, au cœur des montagnes, une famille recomposée autour de, qui se réunit pour la mort du patriarche, et les choses vont pas très bien se passer.
Et le projet de série ?
Et alors les séries, c'est un peu en stand-by pour le moment. D'accord. Mais en revanche, vraisemblablement, si tout se passe bien, peut-être à terme, pourquoi pas, une adaptation Fragile en série.
Ah, bien. Eh bien, merci en tout cas pour l'instant. Lisez Fragile, c'est Nicolas Martin, c'est Au Diable Vauvert, et au prochain épisode.
Et au prochain épisode, merci beaucoup.
Merci.
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas de d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
C'est la fin de cette émission d'Idéo et Débat. Je vous rappelle que nous avons parlé de Zone Basse Vie de Gwenaëlle Aubry, paru chez Gallimard, et puis de Fragile de Nicolas Martin, paru au Diable Vauvert. Deux livres que je vous recommande, ce sera vraiment des bons moments de lecture, donc allez-y, courez, lisez, dévorez. Et puis nous, on se retrouve dans deux semaines avec un seul auteur, une femme qu'on a déjà reçue dans cette émission, c'est Doan Bui, qui là nous revient avec un livre qui est paru chez Grasset et qui s'intitule « Le pays nulle part ». C'est une longue interview que je vous proposerai d'entendre et j'espère qu'elle vous plaira. Donc ça, c'est pour dans deux semaines. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, 89,4 MHz et portez-vous bien.
Du libertaire, roi du libertaire, roi du libertaire.
Conscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une sorte de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.